RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Cette information RMC d'abord de Bérangère Bocquillon. Vous savez les nouveaux cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, eh bien ça ne suit pas. Seuls 6 élèves de primaire sur 10 en ont bénéficié cette année des cours pourtant obligatoires. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Prof Fatima.
Non, on s'y intéresse.
Madame Lefebvre.
On s'en fout pas.
Et mon cher Abel.
On s'en fout pas.
Des séances qui sont pourtant essentielles à la protection de l'enfance. La raison principale de ce retard, les GG, c'est qu'il n'y a pas assez de formation et tous les enseignants ne sont pas forcément à l'aise avec ces questions. Autre frein, c'est la crainte d'une opposition de certains parents. Fatima.
Moi, je comprends que ça puisse aller lentement. Moi, j'ai suivi la formation, j'avais vu en ligne, il y avait une formation en ligne, donc je me suis dit, comme j'étais plus
c'est pour apprendre quoi,
à l'aise avec
trois séances obligatoires.
En vrai, oui, c'est ça. Donc on peut, ça peut prendre la forme qu'on veut dans les matières qu'on veut et c'est adapté. Ce que j'aimais bien dans la formation, c'est ce qu'il rappelait trois choses. La première, c'est que c'était différent en fonction de l'âge de l'enfant. On ne parle pas de la même chose à l'école primaire, au collège, ou enfin en fonction de la classe, première chose. La deuxième, c'est qu'il y a une interdiction absolue, on ne doit pas parler de soi ou de l'enfant. C'est-à-dire, ce n'est pas un cours où tu racontes ta vie sexuelle, où tu vas trifouiller, où tu essayes
imagine
d'avoir des infos.
La prof qui commence à raconter ta vie sexuelle.
C'est ça. Mais c'est très important parce qu'il y a eu des fantasmes ou des choses autour
mais
de ça.
Mais on raconte quoi, alors, là, précisément alors,
normalement, ça va changer en fonction des âges. Mais par exemple, c'est très axé sur le consentement, le corps, la conscience de son propre corps. Et l'idée, voilà, mon corps m'appartient, un adulte, pour que ce soit des enfants
ça,
vigilants.
Pas aux parents de...
Alors, écoutez, je vous renvoie à. Moi, j'ai vu sur YouTube notamment. Des pères et des mères particulièrement en colère de ce qui avait été raconté à leur enfant en CM1, CM2, avec des histoires de zizi, de où on met le zizi, qu'est-ce qui sort du zizi et compagnie. En CM1, CM2, les parents sont fous furieux. Et je vais vous dire, je les comprends. C'est pas des choses qu'on raconte à des enfants de primaire. Ça a sa place au collège, dans des cours de sciences, dans des cours d'éducation civique éventuellement sur la question du consentement, sur la question de la justice. Qu'est-ce qu'on risque sur les attouchements? Qu'est-ce qu'on risque sur les agressions sexuelles? La différence entre une agression sexuelle, un viol, etc., etc. Mais un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, on n'a pas besoin après de lui expliquer ce que c'est la pénétration, ce que c'est la fellation. Je pense que c'est pas très utile.
Ah bon,
parce qu'il y a des professeurs qui sont peut-être pas bien formés. En tout cas, il y a des parents qui témoignent et qui disent qu'ils sont fous de rage et qu'ils ne veulent plus que leur enfant entende des choses comme ça à l'école primaire. Donc, excusez-moi,
après,
moi, je comprends les parents d'élèves.
Sexuelle, c'est 8 ans.
Oui,
la moyenne, c'est 8 ans.
Beaucoup de choses ont été dites, mais aujourd'hui, on parle d'éducation à la vie affective. Faut pas oublier qu'au début, on parlait d'éducation sexuelle à l'école et c'est ça qui a commencé à crisper le débat. Et c'est-à-dire que cette société où on utilise le vocable de la vie intime de l'adulte que l'on transpose sur l'enfant, moi, je comprends qu'il y ait énormément de parents. Moi, j'étais totalement contre. Avant de voir ce qui se passait, moi, j'ai pu discuter avec les professeurs en ce qui concerne les établissements scolaires de mes enfants, parce que j'habite dans un village, les gens sont plus accessibles. Mais c'est vrai que moi, au départ, j'étais totalement contre et j'étais prêt à péter un câble sur le sujet. Donc aujourd'hui, il faut
D'enseigner le consentement, c'est quand même bien.
Oui, mais le problème, c'est que, comme dit Barbara, à partir du moment où chacun a sa sensibilité...
Il faut une meilleure formation.
Il faut une meilleure formation, il faut quelque chose de plus homogène aussi. Parce que le problème, c'est que d'un prof à l'autre, tu peux avoir des dérives.
Bon, les GG. Après le voilier, voilà la grosse berline allemande, l'eurodéputée LFI Manon Aubry aperçue à Bruxelles en train de monter dans une voiture diplomatique avec chauffeur. Ouais. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Abel?
Je m'en fous pas.
Barbara?
Oh, je m'en fous pas.
Fatima?
Je vous laisse la parole, il y a un côté closer qui me déplaît.
Bon, après l'anniversaire de son père fêté sur un voilier, l'élu insoumise fait l'objet d'une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux. Là, on la voit visiblement pressée avec sa valise à roulettes qu'elle donne de façon un petit peu expéditive au chauffeur, sans même rabattre la poignée ou encore sans même un regard. C'est ce qui a fait réagir certains internautes. J'ai eu l'équipe de Manon Aubry hier soir. On lui avait proposé d'intervenir dans les GG. Bon, elle a refusé. Elle dénonce une campagne de cyberharcèlement. Abel, pourquoi tu t'en fous pas?
Il n'y a pas d'explication sur la voiture corps diplomatique. Ils t'ont rien dit, l'équipe de Manon Aubry? Ce qu'on a vérifié avec Olivier hier, c'est quand tu es fonctionnaire ou député européen, tu as droit à une voiture avec corps diplomatique? Non.
Donc voilà.
Quelque part, la gauche et l'extrême gauche se prend les pieds dans le plat, parce que quand on est de gauche, faut tellement être social, faut surtout pas être riche, ce qui est une grosse hypocrisie en fait. Donc d'un côté, je ne suis pas pour que l'on traque Manon Aubry, qu'on aille la chercher partout, parce que bientôt elle sera suivie jusqu'au petit coin, la pauvre. Mais il faut assumer que tu peux être de gauche, avoir de l'argent, mener un train de vie, tout en respectant la dignité sociale des gens.
Elle fait partie des gens les plus riches.
Exactement, elle fait partie des personnes les plus riches et il faut pouvoir l'assumer. Donc se justifier, c'est ça qui serait une erreur. Tu l'assumes. Jaurès, qui est la grande image de la gauche, il avait des robinets en or chez lui.
François Mitterrand n'était pas un ouvrier.
Exactement.
Mais peut-être que là, elle allait fêter l'anniversaire de sa mère.
Voilà. Je sais pas. Voilà. Parce que comme elle a fêté l'anniversaire de son père avec 6 mois de retard, bon, ce qui peut arriver, bien sûr. Donc, de toute façon, c'est ce qui arrive quand tu fais la leçon, hein, parce que ces gens-là passent leur vie à faire la leçon au monde entier, les leçons d'écologie, les leçons de vie.
Mais c'est quand même l'atteinte à la vie privée, parce que là, on la traque.
Oui, bien sûr. Elle est dans l'espace public, c'est pas une atteinte à la vie privée. Moi, je veux juste poser une question. Donc, quand on regarde la déclaration de patrimoine de Madame Aubry à la Haute Autorité de Transparence pour la Publique Publique, elle a pas grand-chose, cette dame. Elle a 60 000 euros en banque et un petit vélo.
Non,
elle a 60 000 euros. Ça fait 7 ans qu'elle est députée européenne. Donc, quand on fait le calcul, puisqu'elle est à peu près à 107 000 euros net en 2020, en 2026, son dernier salaire annuel, c'est 124 000 euros net sur l'année. Ce qui fait que sur 7 ans, elle a encaissé à peu près, et je vous mets à part les frais généraux et les indemnités forfaitaires. Oui, j'en suis certaine. Mmh. C'est presque 800 000. J'ai vu ça, c'est tout un décryptage sur LinkedIn, j'ai vu ça.
Ah bon?
Qu'est-ce qu'elle a fait de tout son argent à Manon Aubry? Parce que peut-être je vois qu'elle traîne sa pauvre valise là.
Elle paye un écho à LFI aussi, peut-être à la
Si ses voitures
elle donne pas un tiers de son salaire.
Non, mais si ses voitures diplomatiques sont mises à disposition pour tous les députés européens par le Parlement,
les voitures diplomatiques, c'est pas.
Et au moins si c'était le cas, elle peut pas avoir un regard pour le monsieur qui est invité là, lui jeter la valise comme si c'était son larbin.
Attention aussi à cette société où tout le monde va se filmer, où tout le monde va se traquer, et on aura toujours un mauvais comportement à dénoncer.
Quand ils arrêteront de traquer les autres, on les arrêtera de les traquer.
Moi, si je te filme toute la journée, ou si on se filme nous-mêmes, vous voyez comment il a parlé au serveur, vous voyez ce qu'il a fait. Il sort de ce restaurant. Il était dans cet hôtel.
Tu fais la leçon, toi, à tout le monde?
Voilà.
Moi, je fais la leçon à tout le monde.
Oui, d'accord, mais c'est
elle fait la leçon à tout le monde.
Je suis d'accord. Elle est prise à son propre jeu. Bien fait pour elle, mais attention à cette société du flicage. Et ensuite, de la morale. C'est-à-dire que on n'est pas des moindres
soldats. Un petit dernier Osef, Anaïs.
Les GG, le ministère de la Culture qui veut s'attaquer aux anglicismes dans le basket en remplaçant des termes comme dunk par All-Star Game par des mots bien français. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Non, madame la prof de français, vraiment.
Fatima Abel.
On s'en fout pas.
Non, je vais laisser mes collègues.
Barbara. Alors, comment traduiriez-vous les GG Money Time, par exemple? Une idée? Parce que... la minute en or. Le fameux trash talking dans le basket serait lui remplacé par le terme.
Le trash talking s'appelle chambrage en français.
Non, provocation verbale.
T'imagines le commentateur sportif en train de dire LeBron James a fait de la provocation verbale à Jimmy Butler. Attention, il reste 30 secondes pour le shoot à 3 points. Sommes dans le temps en or pour gagner le match.
Dans les moments décisifs.
Minute en or.
Moi, c'est
tu veux pas de la francisation?
Mais non, mais faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, en fait. Ça, c'est une communication où ils ouvrent des portes ouvertes, comme on dit. C'est-à-dire que,
Dunk, c'est un smash.
Super.
C'est en anglais aussi, Robin.
Vous savez, ce qui met en danger la langue française, ce ne sont pas les anglicismes techniques. Ce qui met en danger la langue française, c'est l'appauvrissement du vocabulaire, de la syntaxe. Et ça, c'est très, très grave, ce à quoi nous assistons ces dernières années. Pourquoi c'est très, très grave? Parce que ça enferme des enfants dans leur tête, car ils n'arrivent pas à se dire, dans leur monde, parce qu'ils peuvent communiquer avec des gens qui leur ressemblent et qui ont le même vocabulaire, et ça empêche de passer d'un monde à un autre, d'un registre de langue à un autre. Ça empêche de voir même le monde. Ça veut dire que la question de la langue, elle est essentielle, même pour lutter contre la violence. La question de la langue, elle est au cœur de tout. C'est très négligé. Et moi, ça me fait tellement mal au cœur quand on s'intéresse à cette question en arrivant comme ça par les anglicismes, avec le côté gadget. Mais je vous assure que si vous vous rendez compte de la gravité de la question... Vraiment, ça nous ferait même pas rire de lutter contre les anglicismes
Fatima,
comme ça.
Fatima, n'est-ce pas que le pronom relatif est de plus en plus oublié, le que,
oui,
le
là
qui.
Aussi, le que. Alors, c'est très compliqué, ça, ce que qui saute, on va dire. Ça saute partout.
Parce la que fille, j'ai vu, la au fille, lieu de la fille que j'ai vue.
Parce bon,
que
nous, ça, la fille, j'ai vu.
Ah oui, ouais. Parce que quand par exemple, attention, pour le brevet, on doit leur expliquer la différence entre un que, pronom relatif et une conjonction, ils ne l'utilisent pas. Donc, même pour ça, c'est compliqué.